BFM Business. Good evening business. La grande interview, Edwige Chevriot.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité, c'est celui qui a déclaré il y a quelques jours, on est dans le foutage de gueule. Bonsoir François Holmbril.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être avec nous, Edwige Chevriot, absolument. Vous êtes bien avec nous. François Holmbril, président de la CFE-CGC, donc notre invité. Vous avez fait ces déclarations assez fortes sur cette réforme des retraites. Ce soir, il y a une intersyndicale. Il y a des réunions à Matignon et au ministère du Travail. Et à l'Élysée, vous êtes attendu, je crois, jeudi à 10h30 à Matignon.
Exact.
Et ensuite, vendredi à 16h30, selon nos informations, au ministère du Travail. Est-ce que vous allez ou vous n'allez pas? Il n'ira pas, François Holmbril.
Moi, quand je suis convoqué en bilatéral à Matignon, j'y vais, hein, quand même. Je respecte les institutions, je crois que c'est mon mandat. Je n'ai jamais raté aucun rendez-vous avec aucun ministre qui me demandait de venir le voir pour expliquer mes positions, pour discuter sur un certain nombre de sujets, faire des propositions. Vous savez que nous, à la CFE-CGC, on est assez fiers de revendiquer comme étant une caractéristique chez nous que d'être toujours en situation de faire des propositions alternatives. Ça ne nous empêche pas d'être critiques. On l'est parfois, on l'est souvent en ce moment, parce que on pense que les axes qui sont donnés à la politique publique actuelle ne sont pas des bons axes. Et donc c'est vrai qu'on apparaît assez critique, mais en général, on est toujours constructif.
Est-ce que vous irez à l'Élysée lorsque Emmanuel Macron en présentera ses vœux aux forces vives de la nation?
Écoutez, je n'ai pas été invité pour le moment pour les vœux de l'Élysée. J'irai peut-être, moi je ne sais pas. Hein, on verra le moment venu. Si je suis disponible, pourquoi pas, hein. Une époque, effectivement, on était invités, nous, les représentants des corps intermédiaires. Je crois me souvenir qu'Emmanuel Macron, il a globalisé un petit peu ses invitations, mais c'est un autre sujet, on va dire.
Hein. Non, mais qu'est-ce que vous reprochez? Parce qu'on voit bien que la réforme des retraites, donc il y a eu l'interview d'Elisabeth Borne, qui a fixé la Première ministre, qui a fixé le cadre quand même assez, d'une manière assez ferme, on va dire, quand même, de cette réforme des retraites. Il y a Emmanuel Macron, qui a laissé peut-être une petite porte ouverte, et puis il y a les syndicats, où vous êtes tous vent debout contre cette réforme des retraites. La semaine, là, ça va servir à quoi, en fait? Semaine de consultation, et non pas de concertation.
Ça va servir à rien, en fait. Hein. C'est un peu l'objet aussi de mon coup de gueule, puisque vous y avez fait référence. Si vous voulez, on est rentré dans cette phase de consultation sur la réforme des retraites au début de l'automne. Mmh. Et on nous dit qu'il y a trois blocs. Il y a trois blocs pendant lesquels on va effectivement rencontrer le ministre, ses équipes, on va discuter, on va apporter nos propositions, comme c'est normalement l'usage sur des sujets comme ça. Donc effectivement, on a parlé de la pénibilité, des carrières longues, on a parlé de l'emploi des seniors, hein, sur chacun de ces sujets-là, on est comme les autres, on a des propositions à faire. D'ailleurs, en général, on se retrouve...
Oui,
beaucoup.
Mais le gouvernement, ça y est, il vous a donné...
Attendez, on allait attaquer le bloc le plus sensible sur la question des équilibres. Mmh. Le point sur lequel, finalement, on a le plus de désaccords, parce que à partir de chiffres qui parfois sont controversés, nous, on n'a pas du tout la même analyse. Et alors même qu'on devait commencer à discuter de ce sujet-là, Elisabeth Borne, elle annonce que, quoi qu'il arrive, de toute façon, ce sera 65 ans à partir de la génération 61.
Ouais.
Donc là, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'aller...
Oui, mais vous discutez depuis combien de temps? Je veux dire, il y a eu Jean-Paul Devoy qui vous a tous consulté dans tous les sens. Alors, ce n'était pas la même réforme des retraites.
Mais ce n'est pas le même sujet.
Heureusement, j'ai envie de dire... Oui, non, mais c'était une réforme des retraites. Pas la même, on est bien d'accord. Hein. Mais donc on en parle depuis longtemps. Il y a un moment, il faut bien trancher, non?
Écoutez, c'est pas moi qui fais de la com en disant je vais consulter les syndicats. C'est d'accord. Le ministère, c'est le gouvernement qui le fait. Donc qu'il soit au moins conforme avec sa communication. Moi, je sais pas comment ils s'organisent
autour de
leur thématique. Mais dire on va faire de la communication et au final on va discuter des grands équilibres du régime, des ressources, des dépenses, etc. Nous, on est prêts à discuter de tout ça parce qu'on a fait des calculs, on a des éléments. On n'est pas si con que ça aussi, hein. On est capable de tenir tête aux gens qui, au ministère, font aussi leurs calculs. Et bizarrement, au moment où normalement cette phase devait s'enclencher, bah, finalement, Elisabeth Borne, elle a déjà conclu le débat en disant, bah, de toute façon, ce sera 65 ans et puis ce sera à partir de la génération 61. Vous observerez que c'est une façon bizarre quand même de traiter les gens, que de les faire venir à une concertation et au final ne pas attendre la fin de la concertation pour donner le résultat des courses. Moi, ça ne me surprend pas. On est habitué à ça, on a l'habitude. Mais je pense que quand même, sur un sujet aussi sensible, aussi clivant, je crois qu'ils auraient pu respecter un peu leur plan de communication. Il y a quelque chose qui me surprend, là.
Et que vous expliquez comment ?
je sais pas, visiblement, il y a des gens qui ont un peu perdu leur sang-froid au gouvernement, ou à l'Élysée, moi je ne sais pas. Mais
parce
c'est
que
pas
vous faites quand même un distinguo, on le sent bien, entre l'Élysée, qui est presque plus dans votre ligne de tir, j'ai envie de dire de mire, mais c'est presque de tir, François Omeril, et puis Elisabeth Borne. Non, je me trompe ou
Non, honnêtement, je fais pas de distinguo. Vous savez, moi, je suis une personne publique. J'ai un mandat. Je suis président de mon organisation, donc je suis à la disposition en fait des décideurs publics. Je suis à leur disposition dès l'instant qu'ils veulent bien m'intégrer dans leur processus, me consulter. Honnêtement, donc c'est pas un problème. Aujourd'hui, l'exécutif, il est quand même autour du gouvernement. L'Élysée, c'est un autre paramètre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, le fonctionnement des institutions est un peu étonnant. Voilà.
Pour vous, c'est 65 ans ou vous pensez qu'il y a quand même une petite ouverture sur 64 ans plus allongement de cotisation?
En vérité, ça m'est égal parce que c'est pas justifié. On a déjà 1000 fois démontré les choses. On allait d'ailleurs avec des calculs qui démontraient que la position du gouvernement est une position intenable. En fait, ils sont.
En quoi est-elle intenable?
Elle est intenable. Ils disent dans l'interview qu'a passée Madame Elisabeth Borne, elle
au
dit
Paris,
il y aura 10 milliards de déficit par an au bout de 10 ans, ça fait 100 milliards. Bon, 10 fois 10, ça fait 100. Jusque là, on la suit. Sauf que tout ça est très contestable. Ça part sur des hypothèses d'espérance de vie qui sont fausses. L'espérance de vie n'augmente plus. Or, dans ces hypothèses, le gouvernement
elle
fait
augmenter l'espérance de vie. Elle augmente sur une partie, elle n'augmente pas sur la dernière partie de la vie.
Mais non, mais pas du tout. Depuis 2014, ça n'augmente plus. Donc, vous voyez, tout un tas de paramètres sont extrêmement contestables.
Oui, mais, ouais.
Et nous-mêmes, de notre côté, on fait des calculs à partir des données réelles, pour le coup, de l'évolution de l'espérance de vie. On voit, par exemple, qu'au lieu d'avoir un déficit prévisible de 10 milliards, au total, sur 10 ans, on a un cumul positif de 43 milliards. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais simplement pour vous démontrer que nous aussi, on a travaillé notre dossier. Et que quand on rentre dans le fond du dossier, on a tout un tas d'éléments à objecter à ce qui fait la nature de la réforme. Cette réforme n'est pas justifiée en termes d'équilibre de ressources et de dépenses.
Oui, si ce n'est que lorsque vous regardez, et je suis ni dans un sens ni dans l'autre, hein, François Omeril, mais lorsque vous regardez un peu à l'étranger, l'âge de départ à la retraite, il est plutôt vers 65, vers 67, que 62, quoi. Vous voyez ?
Ben ça, c'est un argument.
Oui.
C'est un argument, mais c'est pas l'argument du gouvernement.
Ouais.
Que le gouvernement vienne vers nous en disant, France c'est 62, à l'étranger 65, moi je veux que ce soit pareil partout. Ben, ça, c'est un argument, on peut en discuter pour le coup. Et là, le gouvernement ne ment pas.
Ouais.
Je vous ferai observer que, ceci dit, quand
l'argument
on fait les comparaisons...
L'argument financier pour vous est mauvais.
Ah, ben l'argument, il est totalement dérangeant.
Aujourd'hui, il y a un consensus. Irrecevable.
Il y a un consensus là-dessus. Plus personne ne défend la position du gouvernement. Elle est intenable. Mais je reviens sur l'histoire de la comparaison de l'âge légal avec les différents pays. Il faut aussi comparer l'âge réel de départ en retraite. En France, aujourd'hui même, l'âge réel, en moyenne, est de 63 ans. Et il est prévu que, dans les années qui viennent, il évolue petit à petit pour se stabiliser autour de 64 ans. Ça, c'est la réalité concrète des gens. Donc, l'âge légal, si vous voulez, ce est très important dans la notion de l'âge légal, ce que tout le monde peut comprendre, c'est qu'en vérité, ça ne concerne pas tout le monde. Puisqu'il y a des gens aujourd'hui avec le principe des trimestres à cotiser qui, de toute façon, partiront au-delà. Mais c'est surtout pour les gens qui ont commencé de bonne heure ou qui ont les moyens de partir à 62 ans.
Et donc, c'est Emmanuel Macron qui veut faire des réformes pour montrer qu'il peut faire des réformes vis-à-vis de... Est-ce que c'est commandé par l'Europe, comme a dit notamment le Rassemblement National ou c'est...
Écoutez, c'est vrai que la Commission européenne, et on a le semestre européen, de toute façon, c'est vrai que la Commission européenne est constante, c'est dans les documents, elle pousse la France à faire une réforme des retraites. C'est purement idéologique, c'est comme la mise en concurrence des tarifs de l'énergie, c'est pareil, c'est purement idéologique, ça ne ramène pas un sou dans la caisse. Mais sur votre question que vous demandiez, excusez-moi, j'ai oublié, avant l'Europe.
Avant l'Europe, moi c'était sur le départ de l'âge légal.
Oui, voilà, c'est ça. Si vous voulez, la problématique, elle est que quand on décale à 65 ans, on touche de façon extrêmement déséquilibrée les populations. Ce que veut Emmanuel Macron, dans l'hypothèse que nous on fait, c'est pas forcément de faire passer une réforme en force pour pouvoir dire je suis capable de réformer. C'est tout simplement qu'il y a besoin d'argent pour financer d'autres projets. Il en parle lui-même. L'hôpital, l'école, mais c'est
absolument.
Pas aux salariés.
Et puis en plus, c'est d'augmenter les pensions, les pensions les plus basses, il veut les faire porter. Alors, c'est un peu fou, je vous l'accorde. 1200 euros brut, net, dans quel cadre, etc. Les contreparties sont encore un peu floues, non, dans ce qu'ils ont explicité.
Ouais, je veux dire, c'est assez facile d'habiller une réforme qui appauvrit l'ensemble des salariés d'un désir de justice. Mais c'est quand même un peu grossier comme mécanisme. Évidemment, tout le monde sera d'accord pour pouvoir améliorer le sort des petites pensions. Je veux rappeler quand même que dans le dispositif des retraites aujourd'hui, il y a 30% de solidarité. Donc elle est déjà très forte. Et ce n'est pas aux retraites de régler les problèmes d'injustice de salaire. Il faut régler les problèmes d'injustice de salaire pendant le moment où les gens y travaillent.
Alors, à partir de là, il nous reste de moins de 2 minutes, François Omril. À partir de là, on fait quoi? Vous faites quoi? Est-ce que vous allez soutenir le référendum que souhaite le leader du Parti communiste, Fabien Roussel? Vous allez descendre dans la rue à la rentrée? Qu'est-ce que vous allez décider, là? L'intersyndicale, qu'est-ce que vous allez dire?
Bah, c'est ce soir, l'intersyndicale. Ah, oui. C'est difficile de parler à leur place. Il y aura, je pense, un communiqué après.
Mais évidemment, mais vous, qu'est-ce que vous allez dire?
Moi, vous savez, on n'a fermé aucune porte. C'est-à-dire que nous, on est prêts à faire toute action, à soutenir toute action qui permettra de mettre en échec ce projet de réforme. Parce que, si vous voulez, l'objet de ce projet, ce n'est rien d'autre que d'appauvrir la population des salariés, et uniquement les salariés, pour pouvoir financer d'autres choses dans notre pays. Et nous, nous disons la chose suivante à la CFE-CGT. Pourquoi pas financer des choses qui ont besoin d'être financées? Mais à ce moment-là, c'est tout le monde qui doit y contribuer et pas seulement les salariés. J'observe, je le rappelle encore ici.
Quelle peut être votre riposte? Pardonnez-moi d'insister, mais quelle peut être la riposte? Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à descendre dans la rue aujourd'hui? Enfin, ou lundi.
Vous savez, les Français...
Ou la semaine prochaine, ou à la rentrée, quoi.
Rien ne se passe jamais comme prévu. Moi, ce que je sens, c'est quand même un immense rejet contre ce projet, parce que les Français, ils ont compris ce qu'il y avait derrière. Après, s'il n'y a pas d'autre solution que de descendre dans la rue, ils descendront dans la rue. Moi, je ne le souhaite pas, personnellement. Moi, je pense que la raison va revenir au gouvernement, qui va comprendre...
Non, mais vous n'y croyez pas, ça... Toute dernière question, François Omril. Même en disant ça, ça manque de quoi.
Vous avez raison, je ne suis pas crédible.
Vous n'êtes pas crédible. Hein, donc,
effectivement, je blague.
Dites-nous une phrase de conclusion, peut-être.
Mais moi, je pense sincèrement que cette attaque en force sur le régime des retraites, sur des arguments qui sont faux, aller solliciter uniquement les salariés, alors que dans le pays aujourd'hui, toutes les réformes qui ont été faites au seul bénéfice des dividendes des entreprises, des rachats d'actions, des choses comme ça, c'est insupportable pour tout le monde. Et il faut faire extrêmement attention au moment où les gens sont préoccupés par les coupures d'électricité, par le pouvoir d'achat, etc. Il faut être extrêmement attentif à la façon dont il faut protéger un petit peu les gens en ne leur proposant pas de rentrer dans des dispositifs qui sont de plus en plus chaotiques.
Donc, on est parti sur un foutage de gueule, c'est une expression très forte, et en même temps, on arrive à la fin de cet entretien. On voit quand même que vous espérez qu'il y a des portes ouvertes, que ça va se réveiller à quelque chose de discuté.
Je pense que l'intelligence est une option toujours disponible.
Merci beaucoup. Oui, ça dépend de la tranche de cerveau disponible. Merci beaucoup, François Omril, d'avoir été avec nous, président de la CFE, SCGC, et puis évidemment, on va suivre ce dossier. Merci beaucoup. Tout de suite... Elisabeth Ducotet, elle dirige une des plus belles ETI françaises. Elle a été pendant longtemps coprésidente du métier, elle en est aujourd'hui administratif, et elle travaille entre la France et l'Allemagne. Vous allez voir, c'est très intéressant. En plus, elle fête ses 175 ans.
Good evening business. La grande interview.
Bonsoir Elisabeth Ducotet.
Bonsoir.
Vous fêtez vos 175 ans, pas vous, oui. Pas les vôtres, en tous les cas, ceux de votre entreprise, voilà. Tuan. Voilà. Tuan qui est un des leaders, une des plus belles ETI françaises, on vous cite souvent en exemple, parce qu'en plus vous avez un peu toutes les particularités, vous êtes dans le domaine médical, si on se fait une entorse, et bien ce qu'on vous donne pour vous protéger, évidemment c'est un tissu particulier, c'est fabriqué dans vos usines, qui sont françaises, mais vous en avez aussi en Allemagne. Oui. Demain, vous rencontrer le Mittelstand allemand qui vient à Paris. Vous êtes avec les ETI françaises. Et puis, vous avez aussi acheté une entreprise aux États-Unis. Donc, vous voyez, vous êtes un peu partout. D'abord, un petit mot peut-être sur la conjoncture. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que la situation est difficile en ce moment?
Très dur. C'est très dur. C'est très, très
Pourquoi
dur parce qu'il y a la conjonction de beaucoup de choses. Il y a une espèce de concours de circonstances qui sont l'énorme hausse des transports qu'on a vu, cette hausse depuis 2 ans, un an et demi, mettons. La hausse des matières premières qui est incroyable, avec la rareté des matières premières aussi.
Pour vous, ça s'applique comment pour
Nous, ça s'applique que nous n'avons pas les fils dont nous avons besoin pour faire un certain nombre de bas médicaux, par exemple, et qu'on est obligé de se substituer, de chercher des alternatives, etc. Donc, c'est très, très compliqué. Et c'est très cher, avec des multiplicateurs qui sont incroyables, quelquefois deux fois, trois fois, quatre fois le prix. Et puis, la grande, grande hausse de l'énergie, qui, elle, arrive depuis moins longtemps, mais qui est extraordinairement handicapante pour une entreprise comme la nôtre.
Bien sûr, on va y revenir. D'abord, une petite question comme ça. Vous fabriquez, est-ce qu'on vous a demandé ou est-ce que vous fabriquez des masques? On sent quand même qu'il y a une épidémie de Covid qui est en train de reprendre. Oui. Est-ce que vous refabriquez des masques?
Alors, refait moins, parce qu'effectivement, on en avait fait beaucoup pendant le Covid, et on en avait fait qui étaient des masques dits barrières. C'était ces masques qui avaient été définis par la FNOR et qui sont les masques du grand public. Les masques qui sont lavables X fois, etc., et qui sont des masques sérieux, définis par la FNOR, et on en avait fait beaucoup. C'est vrai qu'actuellement, on n'en a presque plus vendu, mais on voit qu'il y a à nouveau un intérêt, et que dans le fond, porter un masque peut devenir quelque chose d'assez banal.
Donc vous en refabriquez.
Et on en refait un peu, moins qu'avant, moins qu'à la sortie du Covid, mais on en refait, et on est prêt à en faire si besoin.
Alors, sur les coupures d'électricité, comment est-ce que vous êtes mis en ordre de marche? Comment vous avez demandé à vos équipes de se mettre en ordre de marche? Parce que maintenant, la directrice générale, c'est une de vos filles.
Absolument.
Et puis après, j'aimerais bien que vous essayiez de comprendre comment ça se passe en Allemagne. Est-ce que, effectivement, les protections sur les coupes sur l'électricité, le coût énergétique, sont beaucoup plus fortes? D'abord, nous sommes en France. Expliquez-nous comment vous ressentez. Travail de nuit, par exemple, ou pas?
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'industrie, on est consommateur d'énergie, beaucoup, d'électricité et de gaz, les deux. Nous, on a dans le textile médical, on chauffe de l'eau, on fait de la teinture, on repasse des produits. Donc, on a besoin de beaucoup d'énergie, aussi bien gaz qu'électrique. Et donc, cette hausse brutale et considérable de l'énergie, elle nous gêne énormément. Et puis, elle nous gêne aussi beaucoup si elle est sous forme de coupure. Parce que si elle est sous forme de coupure, elle met en cause notre système informatique, qui est un système qui est le système nerveux de l'entreprise. Donc, ce serait extrêmement gênant d'avoir même des micro-coupures.
Dites non aux coupures de courant.
Ah oui, absolument. D'accord. Dans une industrie comme la nôtre, la coupure, elle est dramatique parce qu'elle oblige à reprogrammer absolument tous nos systèmes, qui sont des systèmes sophistiqués, qui sont des systèmes qui permettent de livrer rapidement, de fabriquer rapidement, mais de livrer rapidement aussi. Donc c'est dramatique. Et donc, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir, par exemple, être élu comme entreprise de santé et pouvoir faire participer, je dirais, comme nous sommes dans la santé, à cette exception qui nous permettrait de ne pas avoir la remise en cause de notre système, qui est un système complexe. Après ça, pour tout ce qui est complément de volume d'énergie, nous sommes en train de suréquiper un certain nombre de nos sites, c'est-à-dire mettre des panneaux solaires, trouver des générateurs lorsqu'on en a besoin, justement pour essayer d'éviter les micro-coupures. Mais nous sommes aussi très conscients que ça ne nous produira qu'une partie de notre énergie. Donc, effectivement, la crise énergétique, c'est une crise très, très, très violente pour nous, très lourde.
Et c'est plus combien déjà ?
C'est presque multiplié par 3. Donc, c'est extrêmement pesant. Donc, effectivement, on se trouve pris entre deux niveaux, qui est le prix qu'on ne peut pas monter. Dans la santé, on ne peut pas monter les prix. Et si on les montait, je dirais, on modifierait complètement le marché. Donc, on n'a pas de possibilité de répercuter vraiment.
Parce que les prix sont contrôlés. C'est-à-dire que vous vendez aux hôpitaux, enfin, dans la santé, les prix sont contrôlés.
Les prix sont contrôlés, ils sont réglementés. Ouais. Et donc, on est en étau, je dirais. Et donc, c'est particulièrement impactant pour les industries de santé, ça c'est certain.
Ouais. Et donc plus multiplié par 3. Est-ce que vous allez bénéficier du bouclier tarifaire?
Alors en fait, aujourd'hui la France a mis en place effectivement des mesures, mais le problème de ces mesures, c'est qu'elles sont très souvent destinées à la très grande industrie, c'est-à-dire aux très grands groupes. Et dans le fond, les critères qui ont été choisis jusque-là ne nous permettent pas d'être éligibles, alors qu'on est, nous, très consommateurs. Et on a un peu le sentiment d'être les moyens qui ne sont jamais éligibles. C'est-à-dire, on n'est pas les très grands qui sont, eux, éligibles. L'industrie automobile, peut-être l'aéronautique, ou les très petits, les artisans et les agriculteurs.
Et ce qui a été modulé, là, justement, parce que Bruno Le Maire s'est rendu compte qu'il y avait des gros trous dans sa raquette, il a mis 6 milliards de plus. Est-ce que ça vous concerne ou pas?
Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est on fait un dossier tout de même pour aller le proposer. Et je dirais, on voit du côté du ministère de l'économie, effectivement, une écoute et une attention qui est grande et qui est vraiment positive. Donc, on va déposer un dossier. Puis nous verrons bien, mais nous espérons effectivement pouvoir être aidés sur l'énergie, parce que si ça durait quelques mois, ça irait. Mais si ça a une vraie durée dans le temps, ça impacte complètement l'équilibre de l'entreprise.
Donc, vous dites, là, si Bruno Le Maire nous écoute, vous dites, quelqu'un du ministère de l'économie, vous leur dites, il faut absolument faire quelque chose pour la middle class, si j'ose dire.
Absolument.
Et pourtant, c'est ça qui est paradoxal, parce que vous savez bien, c'est ce qui nous manque en France.
Exactement. Et le TI peut pas être hors radar.
Les ETI sont les oubliés de ce dispositif?
Les oubliés, je ne sais pas, mais effectivement, comme dans les ETI, il y a quand même des business models assez différents les uns des autres. Il y a beaucoup d'industries, mais de l'industrie qui n'a pas les mêmes volumes. Effectivement, il faut vraiment faire attention à ce que les ETI ne soient pas les oubliés.
Comment ça se passe en Allemagne, puisque vous travaillez, vous êtes presque franco-allemande, si j'ose dire, vous travaillez beaucoup avec l'Allemagne, vous mettez en avant, vous essayez de rapprocher justement le patronat allemand des ETI du Mittelstand et le patronat français. Encore une fois, réunion demain. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'ils vous disent de l'autre côté? Parce qu'eux, il y a beaucoup d'argent sur la table.
C'est sûr. Et je crois qu'en ce moment, on est vraiment à une espèce de tournant. Si on ne joue pas Europe, je crois qu'on sera en jeu.
Mais c'est les Allemands qui ne jouent pas Europe. Hein.
Alors, est-ce que les Allemands jouent Europe?
Oui, ils mettent 100 milliards sur la table.
Je crois que il faut maintenant absolument qu'il y ait des règles du jeu qui soient communes. On ne peut pas se passer des règles du jeu communes, on ne peut pas se passer d'Europe et on ne peut pas se passer de règles du jeu qui soient communes parce que sinon, on ferait une bataille. Et on ne peut pas se permettre une bataille entre la France et l'Allemagne en ce moment. Donc effectivement, il va falloir, j'espère que l'Europe va nous aider, enfin l'Europe dans son organisation va nous aider et j'espère que dans les entreprises, on va arriver justement à avoir suffisamment
de... Mais là, ils vous ont dit quoi? Je sais bien que là-bas, ils sont arrivés, j'imagine, à Paris, que c'est demain, vous allez discuter plus. Mais comme vous êtes en contact permanent avec eux, ils vous disent, ben non, c'est formidable, vous n'avez qu'à demander à vous le gouvernement de faire la même chose, ou qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils vous répondent?
Ben, en fait, moi je vois beaucoup les entreprises allemandes qui sont implantées en France et qui effectivement sont en train de se dire que c'est compliqué aujourd'hui pour eux, la France. Et donc, dans ces moments-là où je pense que dans le Covid, on n'a pas été très européen, on a fabriqué des solutions très nationales, je trouve que si aujourd'hui...
Ah, quand même, il y a eu des achats groupés. Thierry Breton cite toujours son étendard européen, achats groupés de Covid. Regardez, on a fait quelque chose.
Oui. Bon,
vous avez l'air pas convaincu.
J'estime une demi-réussite. Je dirais qu'aujourd'hui, on peut pas se payer un échec. On peut pas s'offrir un échec. Ça veut dire qu'effectivement, aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique, il faut qu'il y ait un vrai jeu de la cohérence de ce qui se passe de part et d'autre des frontières.
Regardez la France qui essaye d'avoir justement de décorréler le prix du gaz du prix d'électricité. Les Allemands ne veulent pas. C'est pas à vous, je vais l'expliquer. Au niveau des Américains, puisque vous avez racheté une entreprise aux États-Unis, oui. Ça se passe comment? Et pour vous?
Ben, pour nous, les États-Unis, où on a fait 4 acquisitions successives,
avec son IRA,
est devenu évidemment un marché qui est très important, dans lequel il est très important d'avancer, et dans lequel nous avons l'obligation. Enfin, d'abord, nous voyons moins de hausse de coûts de l'énergie de l'autre côté, donc les problèmes sont beaucoup moins aigus pour nos filiales américaines que pour la France. Mais effectivement, on sent bien que les États-Unis jouent un rôle quand même très très puissant et très puissamment
attractif. Reconnaissez-le. On sent que vous êtes une de plus, une entreprise de plus, une dirigeante de plus, en train de vous dire, tiens, les États-Unis, c'est quand même mieux.
C'est certain. Il faut absolument qu'on arrive à équilibrer nos chiffres d'affaires d'un continent à l'autre. Et les États-Unis, forcément, est un marché qui est très, très attractif pour nous.
Ouais, et les conditions de ce fameux Inflation Reduction Act sont...
Oui,
très favorable.
Ce qui a été annoncé tous ces temps-ci, évidemment, à force de très grands renforts d'annonces, nous, pour l'instant, on n'en a pas bénéficié, mais je crois que le marché américain, c'est un marché dans lequel on ne peut pas, quand on est une ETI internationale, on ne peut pas ne pas être. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire.
Une question, vous n'avez pas totalement répondu à ma question. Est-ce que vous pourriez, comme certaines industrielles aujourd'hui, envisager le travail de nuit pour vos équipes?
Nous, si vous voulez, on est en 3-8.
Ouais.
Donc, déjà, c'est une organisation qu'on a. Et c'est une organisation qu'on a et qui nous permet justement de réguler les volumes dont on a besoin. Et donc, le travail de nuit, oui, chez nous, on le fait. Et en fonction de la demande, on le fera un peu plus ou un peu moins. Mais on ne le fera pas spécialement pour la crise d'aujourd'hui.
Ouais. Mon sujet favori, une femme sur 10 seulement chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous faites, Elisabeth Ducotet, pour essayer d'essaimer? Vous avez nommé votre fille.
Oui, d'une part, j'ai nommé ma fille. Et j'ai une autre de mes filles qui est au COMEX. Mais je lance un prix dédié à des jeunes femmes dont la start-up risque de devenir une ETI dans le futur. Et voilà, j'aimerais bien que ce prix ait un certain succès et qu'on ait beaucoup de jeunes chefs d'entreprise.
Très bien, on va le soutenir. Merci beaucoup d'être venue ici, Elisabeth Ducotet, la présidente donc de Twan, qui dit, attention, les États-Unis c'est quand même très attractif et c'est sûr qu'il faudra des règles communes au niveau européen. Dieu vous entende, enfin que Bruxelles vous entende. Merci beaucoup. Si vous voulez écouter, réécouter, regarder cette double interview, vous pouvez évidemment le faire sur le replay de BFM Business et puis aussi sur l'application. Et tout de suite, comme tous les soirs, vous retrouvez François Sorel, Tech & Co, avec Frédéric Simotel.
Good evening business. La grande interview.